l'annonce de ce cours Microsoft Virtual Academy dans lequel vous apprenez à faire une page HTML et sa mise en forme en CSS. Alors, c'est le dernier module de cette partie sur HTML, puis ensuite on enchaînera sur les feuilles de style CSS et leur fonctionnement de base en tout cas. Et dans ce module-là, on va plutôt parler de quelques nouveautés qu'il y a eu en HTML5. Qui peuvent être utiles pour les formulaires et pour la validation de données. Donc c'est tout un tas de choses qui, sans ça, sont à faire en JavaScript. Soit en JavaScript si on veut le faire côté client avant que les données soient envoyées au serveur, soit côté serveur, a posteriori, il faut renvoyer une page en indiquant où étaient les erreurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut faire soi-même. Avec HTML5, on a de base plein de choses qui existent pour faire ça automatiquement et qui nous simplifient un petit peu la vie. Alors, on va passer directement à... un exemple de fonctionnement. Alors pour ça, le plus simple, c'est tout simplement de faire comme moi. Vous faites un clic droit sur Before, vous ouvrez avec Visual Studio Code ou avec un autre éditeur de code. Et on va se rendre là-dedans où il y a, comme d'habitude, alors quasiment que de l'HTML, où il y a quasiment rien, tout est déjà prêt. On a simplement ajouté ici une feuille de style pour avoir un petit peu de style quand même pour les éléments qu'on veut faire. Et puis on a un formulaire avec une zone vide dans laquelle on va saisir tous nos exemples. Alors, on va donc parcourir un certain nombre de choses. La première qu'on va faire, c'est checker les emails. Donc, H2, donc si on veut saisir un mail, on appelle ça email ici, comme ça on verra ensuite dans la page comment ce sera découpé. J'ai oublié le slash. Hop, 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 slash, voilà. Voilà. Donc, à l'intérieur de ça, on va donc rajouter un paragraphe, comme d'habitude, qui va contenir un label, slash label, et puis dans ce label, on aura un span, et on fait ça parce qu'on a un style particulier sur les spans juste en haut, là, comme je vous avais expliqué précédemment, mais on va pas s'attarder sur le style CSS, puisque c'est pas notre objectif ici. Donc un span, slash span, et dans ce span là on va avoir entrée, alors je vais me mettre entrée votre email de point, et puis à côté du span on aura un input comme on a vu dans le module précédent avec le type est égal à email. Donc c'est un petit peu différent puisque si vous avez suivi le module précédent, je vous explique comment faire une zone de saisie de texte, on aurait mis type égal texte. Là on met précisément type égal email, ce qui fait que avec un nom bien évidemment qui sera je sais pas, email input par exemple. Et puis, grâce à ça, on va avoir une vérification qui va se faire pour ce mail-là et qui va checker ça. On va également rajouter quelque chose qu'on verra un peu plus tard, mais qui est required, qui oblige la saisie de cette valeur-là. Et donc, si je viens là-dedans et puis que j'affiche ma page dans Edge, je me retrouve bien avec mon formulaire. Si je clique sur Submit, il va me dire ce champ est requis. Très bien, j'ai juste besoin de rajouter required. Et puis, si je mets quelque chose qui ne ressemble pas à un mail et que je saisis, il va me dire que je dois saisir une adresse mail valide, une adresse de messagerie valide. Si je mets un mail, par exemple, je vais mettre je sais pas moi, www, je mets un faux mail exprès, hein, mais avec un format qui est bon, si je soumets, là il va bien soumettre ma page, il l'envoie quelque part, mais il n'a pas réussi puisque cette page-là n'existe pas. Si on regarde dans le code, hein, il essaye de soumettre à la page form.spx qui évidemment n'existe pas, il faudrait la créer. Si vous voulez apprendre à faire ça, il faut regarder un cours sur du code côté serveur, comme ASP.NET par exemple. En ASP.NET 5, on peut faire ça très facilement. Donc en tout cas, il a bien réussi à le valider, mais par contre, il n'y a pas de traitement derrière. Donc on continue dans notre petite recherche de nouveautés. Donc on en a une seconde qui est le numéro de téléphone également. Donc téléphone. Voilà, dans lequel on va avoir... Alors je vais copier-coller à chaque fois parce que sinon ça va être compliqué. Ça prend trop de temps. Donc on aura entré votre tel, et puis là on va positionner la variable téléphone. Alors c'est pas téléphone, c'est juste tel ici, et puis on va mettre ici tel input, puis on le laisse, on va enlever le required parce que sinon ça va nous embêter tout le temps. Voilà, donc si je rafraîchis ma page, j'ai téléphone à cet endroit là. Si je mets des choses, alors ici il faut que je mette quelque chose, voilà. Si je soumets, donc il ne me le valide pas. Et ça, c'est important à savoir, c'est que ici, on a quelque chose qui ne va pas faire de la validation pour nous. mais qui par contre va indiquer le type d'information qui est dedans. Ce qui peut être très utile pour certaines applications qui veulent savoir que tiens, bah là, se trouve un numéro de téléphone, potentiellement on peut l'utiliser pour faire quelque chose, appeler automatiquement, je sais pas moi, ça vous est peut-être déjà arrivé, dans votre téléphone, vous allez sur un site web, il y a un numéro de téléphone, vous cliquez dessus, ça appelle directement. C'est notamment grâce à ce genre de choses-là qu'on peut faire ça. Si on continue, on peut faire la même chose avec une URL, donc une adresse web. Donc je vais coller la même chose, entrer une URL. Et cette fois-ci, on va positionner ici URL. Voilà. Et puis on va mettre URL input. On fait quelque chose de très simple. Donc si je retourne dans ma page et que je rafraîchis, j'ai bien mon élément URL. Je vais enlever le required là-dessus parce que sinon ça va m'embêter à chaque fois. Voilà. Je rafraîchis. Donc maintenant, si je saisis mon URL ici, si je mets n'importe quoi et que je fais soumettre, il va me dire que mon adresse n'est pas valide. Si je mets par contre correctement .bing. Comme par exemple, et que je soumets, cette fois-ci ça c'est bien soumis, encore une fois il n'y a pas la page derrière, mais par contre c'est bien soumis, donc il y a la validation côté client est bien passée parce que j'ai mis une bonne adresse qui respecte bien ce que c'est qu'une adresse internet. Donc on continue avec cette fois-ci des choses en rapport avec des valeurs numériques. Et la première chose qu'on va faire, c'est que je vais coller ça et puis je vais mettre entrée, alors si je me trompe pas, entrée un nombre. Et on va mettre ici, on va préciser que ça doit être un nombre, justement. Number input. Alors required à chaque fois, ça va pas du tout. Voilà. Okay. Donc j'ai enlevé le required, c'est très bien. Donc si je retourne là et que je rafraîchis, j'ai mes valeurs numériques. Si je mets du texte, vous doutez bien, il va me demander de saisir un nombre. Et si je mets un nombre, ça fonctionnera correctement et ça va retourner vers cette page. Donc, puis vous pouvez tester aussi par vous-même. Et puis on va rajouter autre chose qui sera cette fois-ci entrer un ensemble de nombres, ou plutôt une plage de nombres, un range en anglais, plage de nombres au pluriel. Et puis ce sera donc ici range pour dire que c'est une plage. Et puis ici ce sera range si j'arrive à saisir correctement, range input. Voilà, et donc j'ai du coup par défaut ça va de 0 à 100, et je peux me déplacer à l'intérieur, je peux également lui donner une valeur prédéfinie en lui disant que, en rajoutant ici value égale, je sais pas moi par exemple 10, et donc si je fais ça, bah, j'ai par défaut ma valeur qui se positionne à 10, et on peut le positionner comme ça n'importe où si on veut. Voilà, je peux par exemple le mettre à la meilleure valeur de tout l'univers qui est 42. Et du coup le rafraîchir et trouver ici que c'est positionné sur 42. Voilà, donc ça c'est des choses qui sont assez utiles. Ça permet également d'avoir un style par défaut pour définir ce range de valeurs ici, qu'on peut ensuite changer si on veut en CSS, mais on en a un par défaut qui est plutôt qui est adapté en fait au navigateur qu'on utilise. Alors si on continue un petit peu dans la validation et les données justement, on a des listes de données également qu'on peut positionner, qui peut être intéressant. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir je vais mettre un paragraphe. Voilà, et puis à l'intérieur de ce paragraphe, on aura un label avec un span encore une fois. Span slash label. Et à l'intérieur de ce span, on va indiquer liste de données. Donc, rien de très compliqué, ça vous savez faire maintenant. On va définir un input. Cet input, ce sera tout simplement de type texte, donc il n'y a rien de particulier ici au niveau de la validation, mais que par contre, il est associé à une liste qui sera une liste, qui sera définie, qui doit être définie quelque part. Et cette liste, elle va être définie ici, donc c'est un élément dataList, tout simplement, dans lequel on indique son identifiant. Donc il faut que ce soit le même, évidemment, hein, sinon il ne pourra pas faire l'association, le navigateur. Et donc le navigateur, il saura que il faut proposer pour cette input, une liste de propositions, vous savez, ça arrive parfois, on clique et puis hop, il nous propose des valeurs qui viendront de cette liste-là en particulier. Et donc cette liste, on aura une première option dont le label sera premier élément, la valeur sera 1 par exemple, on peut mettre ce qu'on veut, et puis alors la valeur sera voilà 1, alors c'est du texte mais j'ai mis des chiffres, bon peu importe, ça marchera quand même, puis deuxième élément, et puis troisième. Avec un S, troisième élément. Donc si je fais ça et que je rafraîchis que je rafraîchis là-dedans. Alors je me suis juste trompé à un endroit, j'ai fermé trop tôt. Voilà, et donc je reviens là-dedans, je rafraîchis. On voit bien que ici j'ai une liste de données. Quand je clique dedans, j'ai la possibilité de choisir. C'est un petit peu différent de ce qu'on a vu dans le module précédent, où on avait des listes avec des options. Cette fois-ci, c'est une zone de texte. Je peux mettre ce que je veux dedans. Mais par contre, on me propose toujours une liste d'éléments. Donc, si par exemple, je tape premier élément, ou si je tape deuxième élément, donc ça me permet de directement la voir et puis de faire entrer, et automatiquement, ça me met la valeur. Alors, ce qui est particulier, c'est que quand je fais ça, il me met non pas la valeur qui est celle que je vois, mais la valeur qui est réellement dans value. Donc il y a le label, c'est l'étiquette, et value. Si vous voulez que ça soit la même chose, il faut mettre la même chose aux deux endroits. Si par exemple, si je mets premier élément, et que je reviens ici, que je rafraîchis, donc là où j'ai, si je descends un peu, voilà, là où j'ai premier élément, ça mettra bien premier élément. Par contre, si je mets le deuxième élément, ça mettra 2, puisque c'est la valeur que j'ai définie. Ce qui peut être bien pour aider l'utilisateur à faire des choses et à automatiquement mettre la bonne valeur, par exemple. Alors, si on continue un petit peu, et cette fois-ci, on reste un peu dans la validation, mais pas forcément, mais toujours dans le monde du formulaire. Donc, on va avoir la possibilité d'avoir un... Alors, je vais refaire mon petit slash label, slash P, et puis je vais mettre un petit span devant. Span. Alors, il doit être dans le label, pardon. Span. Tout ça encore une fois pour utiliser les feuilles qui ont été créées un peu plus haut, hein, feuilles de style. Donc la première chose, c'est l'autofocus. Alors, quand on met du texte prédéfini dans un formulaire, souvent le comportement auquel on s'attend, c'est par exemple « veuillez saisir ça » et on le met dedans, et quand on clique dessus, ça disparaît, on peut mettre notre texte. Et c'est exactement ce qu'on va faire là. Puisqu'on va définir un input qui sera de type texte, et qui aura une propriété autofocus d'activer. Voilà, donc si je fais ça, je rafraîchis, je viens tout en bas. Ce qui va se passer, c'est que dès que je rafraîchis, le focus est positionné là-dedans. C'est-à-dire que même si je me mets là, je rafraîchis ma page, j'ai automatiquement, vous voyez, le petit élément qui clignote ici, pour me dire que j'ai ma saisie qui se fait là-dedans. Je rafraîchis, j'ai la saisie directement dedans, et je commence à taper. C'est très pratique quand on fait, par exemple, un moteur de recherche, on va sur son moteur, et hop, on est directement positionné dans la zone de saisie, on n'a plus qu'à saisir, on n'a pas besoin de cliquer dedans d'abord. Premier élément qui peut être assez pratique. Deuxième, c'est la validation un peu plus poussée du texte en utilisant un pattern. Alors un pattern, plus précisément, hein, c'est en fait une expression régulière. Alors là, on est très loin d'être dans un cours où on va expliquer les expressions régulières. Je vais en copier une qui va permettre de valider un code postal. Donc en gros, alors vous allez voir, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais ça vous intéresse, il y a énormément de cours sur internet qui existent qui vous parlent des expressions régulières. C'est pas si compliqué que ça apparaît, mais je la copie juste pour être sûr de pas faire de bêtises, parce que on n'a pas envie de passer des heures à la valider. Donc ça, c'est quelque chose qui va permettre de vérifier que le code postal est bien de 5 caractères, de 5 chiffres. Donc je rafraîchis, si je saisis dans mon pattern quelque chose qui ne sont pas les 5 chiffres, ça va simplement me dire on doit utiliser un format, et vous devez utiliser le format suivant, qui n'est pas forcément défini à cet endroit là, mais on doit utiliser le format en question, qu'on pourrait préciser. Et ici, si par contre j'utilise bien ce qu'il faut, je mets 5 chiffres, ça valide bien et ça passe bien derrière. On peut continuer en cette fois-ci, en utilisant le fameux placeholder. En fait, c'est la définition de autofocus que j'ai donnée avant, mais qui n'était pas bonne. Donc, placeholder égale saisissez votre nom, pas n'importe quoi, hein, je dis au hasard. Si je retourne là-dedans, je vais bien retrouver tout en bas. Saisissez votre nom, et quand je tape dedans, je vais pouvoir taper mon texte par-dessus, et j'ai absolument pas de problème. C'est supprimé dès que je commence à taper. Donc je mets mon nom, Étienne, et voilà. Tout simplement, ça permet de donner une aide supplémentaire à l'utilisateur, sans forcément faire de code spécifique pour gérer ce type de problème. On a le required que vous avez vu tout à l'heure, qui permet de rendre obligatoire un champ, et puis on a step également, qui est très utile quand on fait des valeurs. Donc c'est un type égal number, comme on a vu tout à l'heure, sauf qu'on lui a rajouté un step, et on va lui dire que il faut que les valeurs qu'on saisit soient divisibles par 5. Donc si par exemple je mets 3 et que je fais submit, si j'y arrive, voilà, il faut que j'entre une valeur valide, il faudrait que je précise à l'utilisateur, si je mets 10 par exemple, qui est divisible par 5, là ça passe très bien et on passe à l'étape suivante. Voilà, donc c'était un ensemble d'exemples de fonctionnalités qui existent, mais je vous invite encore une fois à parcourir w3.org et tout un tas d'articles qui existent sur internet sur HTML5 et des livres aussi, qui vont vous permettre d'aller plus dans les détails. Vous avez maintenant à peu près tout ce qu'il vous faut pour comprendre ces choses-là, pour comprendre la création de la structure d'une page, et on va maintenant passer, dès le prochain module, à comprendre comment est-ce qu'on fait pour mettre une forme, faire de la mise en forme sur ces différents éléments et leur donner plus qu'une notion sémantique, leur donner un affichage graphique et une représentation dans tous les navigateurs. À bientôt pour le prochain module.